France Bleu Creuse, le dossier du jour, Josiane Perron.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Donation, donation partage, voire donation transgénérationnelle. C'est au programme de ce matin avec, pour répondre en direct à toutes vos questions, Maître Sidonie Bagilet-Latapie, notaire. Ces donations qui peuvent permettre, entre autres peut-être, de ne pas rester coincé dans des indivisions à ne plus en finir. Une question, un doute, une précision, vous pouvez appeler dès maintenant 05 55 52 37 38.
Le dossier du jour avec Granit et Marbre Mourier. Plan de cuisine et salle de bain. Fabricant depuis 1860. Exposition à la Souterraine et Limoges et sur granit-marbre-mourier.fr.
Bonjour maître.
Et bonjour.
Bienvenue sur France Bleu Creuse, donation, donation partage, voire donation transgénérationnelle. Mais avec ce mot donner, c'est finalement transmettre de son vivant ?
C'est ça, c'est bien résumé.
Tout simplement.
Oui.
Quel intérêt à le faire ?
Ah, beaucoup.
Là, beaucoup, ben, on attend vos explications, maître.
Peut-être que Johnny aurait dû y penser.
Le pauvre Johnny.
Ouais. Eh, Johnny, il mange à toutes les sauces, le pauvre. Mmh. Mais effectivement, on donne, ça permet de transmettre son patrimoine aux personnes qu'on désigne. Alors bon, on va dire assez généralement les enfants. Donc ça permet la transmission du patrimoine, de répartir de son vivant ses biens entre ses enfants si on en a plusieurs. Et après, effectivement, bon, mais si vous en avez qu'un, donc à ce compte-là, on se dit, mais quel est l'intérêt ? Mais quand on n'a qu'un seul enfant, l'intérêt va être dans la fiscalité. Puisque quand on fait une donation, le coût de la transmission est moins élevé que le règlement de deux successions.
Cette donation, donc la grosse différence avec le testament, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, c'est donner maintenant.
C'est
quoi.
Ça. Dans un testament, on prend une disposition de répartition pour le jour où on sera décédé sur ce qu'il restera de son patrimoine. Par contre, une donation, effectivement, c'est de son vivant.
Alors peut-être que beaucoup d'entre nous hésitent à le faire parce qu'on a peur de se démunir de ses biens, non ?
C'est souvent effectivement un mal. Donc globalement, le donateur garde quand même des réserves. Par exemple, sur la maison d'habitation, il en garde l'usufruit, c'est-à-dire le droit d'y habiter sa vie durant. Interdiction d'aliéner, interdiction d'hypothéquer, donc les parents en donnant, eux s'estiment effectivement dépourvus, mais juridiquement ce n'est pas le cas.
La première donation peut-être à laquelle il faut réfléchir, c'est la donation entre époux, non ?
C'est ça. Alors celle-ci par contre c'est une autre variante, donc la donation entre époux c'est à mi-chemin entre la donation de son vivant et le testament pour quand on est mort, où effectivement on laisse à son conjoint l'universalité des biens, de l'usufruit ou autre chose, mais essentiellement l'usufruit de l'universalité de ce qui restera dans sa propre succession. Effectivement, la donation au dernier des vivants est quand même une disposition à prendre en premier lieu entre les époux. La réponse est oui.
C'est protéger l'autre.
Oui, c'est protéger l'autre, tout à fait.
05 55 52 37 38, vos questions, c'est maintenant. Donation, donation partage, donation entre époux, donation transgénérationnelle, que vous autorise la loi ou elle bloque carrément. Une question, vous avez la réponse en quelques instants. À tout de suite.
You're aching, you're breaking, and I
Everybody Changing Can.
France Bleu Creuse, le dossier du jour.
Avec notre invité en direct, Maître Sidonie Bagilet-Latapie, notaire, qui répond à toutes vos questions ce matin concernant les donations. Bonjour Geneviève.
Bonjour.
Nous vous écoutons, Geneviève.
Bonjour maître, je voudrais savoir, nous avions fait une donation, enfin une communauté universelle, et nous avons un fermier qui va arrêter. Je voudrais savoir si je peux vendre la ferme sans demander aux autres enfants.
Bonjour Geneviève.
Oui, bonjour maître.
Votre époux est décédé, c'est ça?
Oui.
Donc en fait, vous aviez changé de régime avant son décès?
Ah oui, il y a 10 ans.
Voilà, donc, et les enfants que vous avez, ce sont les enfants avec lui?
Oui.
Oui, donc effectivement, quand votre locataire s'en va, vous avez été la seule à hériter de la succession de votre époux. Alors, en fait, si vous voulez, la communauté universelle, c'est pas exactement un héritage, c'est que le conjoint qui survit est présumé être seul attributaire de la communauté au jour du décès. Donc, techniquement, s'il n'y a pas de réserve dans votre changement de régime, c'est bien tout à vous. Voilà, mais c'est bien tout à vous.
Oui. Donc, je peux en disposer librement.
On tout
peut
à fait.
M'obliger. Le fermier ne peut pas m'obliger à reprendre son fils derrière.
Ah. Là, par contre, effectivement, ça va dépendre non pas de votre communauté universelle, ça dépend du bail que vous avez avec votre locataire. Donc, votre locataire, vous y avez consenti un bail. Aujourd'hui, en fonction du bail que vous y avez accordé, effectivement, il peut exercer la suite pour son enfant.
Oui. Ce qui m'empêcherait de vendre.
Et parfaitement. Voilà. Mais ça, si vous voulez, c'est pas dans la communauté universelle. Ça, c'est dans le bail que vous avez fait avec votre locataire.
Oui, oui. Dans la communauté universelle, je suis donc libre.
Oui, vous êtes libre. Mais après, effectivement, il faut que votre locataire, quand le bail arrive, donc il prend sa retraite, hein, si j'ai bien compris, il s'en aille. Si effectivement, il vous oppose la reprise d'un descendant, ça, par contre, c'est dans votre bail que c'est indiqué.
Oui.
D'accord, Geneviève.
D'accord.
Faut bien relire le bail.
Je vais confier ça à quelqu'un de...
Voilà, ben si vous voulez, c'est mieux. Vaut mieux vérifier.
Il vaut mieux vérifier, exactement. Très bien, Geneviève, c'est exactement ça.
Merci beaucoup.
Bonne journée. À bientôt. Et nous avions d'autres personnes en attente, mais visiblement, on en a perdu. Mais nous avons Daniel avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Je voudrais savoir, maître, voilà, je suis marié. Allô?
Oui.
Oui, nous vous écoutons.
Merci. Et donc... depuis que mon mariage, on a acheté un appartement, hein, en commun avec mon épouse. Et avant que je me marie, j'ai hérité de la maison de mes parents, hein. Alors, en imaginant, bon, j'ai 2 filles, et pour l'instant, il y a un peu de difficulté pour faire le partage. Bien. En admettant que je décède le premier, la maison qui vient de mes parents, vis-à-vis de mon épouse, qu'est-ce qui va se passer?
Alors, Daniel.
On s'est passé au dernier vivant.
C'est parfait, Daniel. Vous avez fait le mieux qu'il y avait à faire. Parce que je déduis, les enfants que vous avez, ce sont les mêmes avec votre dame ou ce sont des enfants que vous avez à vous avant?
Ah non, on les a eus ensemble.
Hein. Ensemble.
Voilà.
Donc, ce que vous avez hérité de vos parents, donc, avant votre mariage, reste propre. Et le bien que vous avez acheté, donc, pendant la communauté et de communauté, comme vous avez fait une donation au dernier des vivants.
Oui.
Quand vous décédez, donc votre dame, elle a une option, celle que je disais tout à l'heure essentiellement de l'usufruit.
Oui.
Donc sur l'appartement que vous avez ensemble, il y en a la moitié à elle et la moitié qui est à vous. Donc elle aura l'usufruit et vos enfants en auront la nue propriété. Et par contre, pour le bien propre, c'est-à-dire la maison dont vous avez hérité de vos parents avant le mariage, elle en aura l'usufruit en totalité.
Ah oui, donc...
ce que vous avez fait, pour le moment, c'est le mieux par rapport à votre dame.
Oui.
Par contre, c'est vrai que, comme on le disait, il faudrait peut-être arriver à faire l'arrangement entre vos enfants.
On va essayer, il y a un peu de réticence, mais peut-être ça va venir.
Mais là, pour le moment, Daniel, vous avez fait le mieux qu'il était possible de faire.
Je vous remercie, maître. Hein. Voilà.
Bonne journée, Daniel.
Allez, merci.
Au revoir.
France Bleu Creuse, le dossier du jour.
Et la suite de vos appels au 05 55 52 37 38 ce matin à Maître Sidonie Bagilet-Latapie, notaire. Vos questions autour des donations. Bonjour, Nicole. Nicole?
Oui,
bonjour.
Bonjour.
Bonjour, maître. C'est un peu compliqué, je ne vous le cache pas. Bon, c'est une donation qui a eu lieu en 1946. Mon mari était mineur à l'époque. Donc c'est son frère qui avait la garde de sa part et le beau-père avait fait marquer le privilège du copartageant. Quand le beau-frère est décédé, Mon mari a réclamé sa part. Et là, on lui a simplement présenté une quittance en lui disant « T'as eu ta part, c'est tout. » Alors, je voudrais savoir si c'est normal et qu'est-ce qu'on peut faire.
Oui, alors, Nicole, en fait, au moment de la donation, votre mari était mineur, c'est ça ?
Oui, il avait 9 ans.
Et quand on lui a présenté la quittance, les fonds ont été où ?
À nulle part, il ne les a pas touchés. Hein. La quittance, il l'a vue, elle sortait de chez notaire, elle était marquée enregistrée. Quand on demandait à l'enregistrement, elle n'existe pas à l'enregistrement.
Hein ? Et qui c'est qui l'a signé, cette quittance ?
Eh bien, soi-disant que c'est lui, il ne se rappelle pas.
Mais votre mari, il n'a pas pu la signer puisqu'il était mineur.
Eh bien oui, mais elle est signée de 1960.
D'accord. Après le privilège de copartageant, bon, je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, il est tombé hein, depuis 1946. Ouais. Si vous voulez, donc il y a quelqu'un dans l'arrangement qui devait de l'argent à votre mari.
Voilà.
Et ça, c'était son frère, c'était sa sœur, c'était qui ?
C'était son frère.
C'était son frère, le monsieur qui a été administrateur également.
Bah oui. Et ça, ça n'a jamais été fait, il ne l'a jamais touché, il se retrouve déshérité de la part de ses parents.
Mais je ne devrais pas le dire, mais...
Ouais, ça vous semble...
C'est cousu de fil blanc.
C'est tout perdu, si je comprends bien.
Malheureusement, Nicole, aujourd'hui, vu l'ancienneté, la prescription a couru, la quittance est opposable. Votre mari, il ne se rappelle pas ?
Ah non, il me dit « j'ai jamais signé ça ».
Oui, mais si vous voulez, le problème, c'est que c'était en 1960 qu'il fallait s'en occuper. Aujourd'hui, la prescription est opposable, vous comprenez ce que je veux dire ? La difficulté de la situation, elle n'est pas dans le fond. Ce que vous dites s'entend parfaitement. Le problème, il est dans la charge de la preuve. C'est-à-dire qu'il faut démontrer quelque chose qui s'est passé en 1946, en 1960. On est en 2018, donc si vous voulez, c'est inextricable.
J'ai écrit aux impôts, au service d'enregistrement, elle n'a jamais été enregistrée, bien qu'elle soit marquée enregistrée. Ils ont dit que ces références n'existent pas. Ouais. Le notaire a reconnu qu'il n'avait jamais fait d'acte de...
De quittance ?
De quittance, non pas de quittance, parce que ça a changé de notaire, mais de... Comment on appelle ça l'attribution de ratification. Comme parce que c'est marqué dans l'acte, il aurait dû avoir un acte de ratification.
Oui. Et donc, eh bien, je vous dis, la difficulté, si vous voulez, ça va être la charge de la preuve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va être sur des faits qui sont très anciens. Il faut démontrer qu'effectivement, la quittance, donc l'acte en question, n'a pas été enregistré. Et démontrer que la signature de 1960 n'est pas celle de votre mari. C'est ça la difficulté. C'est qu'aujourd'hui, techniquement, sur le papier, je vous dis, c'est cousu de fil blanc, il a donné quittance.
Oui, on se retrouve, je vous dis, il en a jamais, même il n'en avait pas de copie. Normalement, tout acte de notaire, on vous en donne une copie.
À l'époque, vous savez, en 1946, il n'y avait pas les photocopieurs comme maintenant. Donc bon, et puis en plus, il était mineur. Donc, 6 copies il y a eu, elle a été remise à son administrateur.
Oui.
Eh ben, Nicole, là.
On se bagarre depuis longtemps et bon, il y a un gros problème, quoi.
Ouais. Et pour vous mettre, ça va être très compliqué.
Là, si vous voulez, aujourd'hui, la difficulté, je vous dis, elle n'est pas dans le fond de ce que vous expliquez. Votre fond se tient parfaitement. Votre problème, il va être dans la charge de la preuve. C'est-à-dire que vous prouviez ces éléments de fait avec le problème également de la prescription, puisque les faits sont relativement anciens. De démontrer l'administration de 1946, et deux,
prescription, elle part à partir de quelle date, si vous...
À partir du moment où on en a eu connaissance, donc techniquement, pour moi, 1960.
On en a eu connaissance, nous, de cet acte qu'en 1989.
Et oui, mais si vous voulez, ce qui vous est opposable, c'est pour ça que je vous dis, vous avez un problème de charge de la preuve. C'est-à-dire que techniquement, ça a couru à partir de 1960, si effectivement la quittance a bien été signée par votre mari, bien sûr.
D'accord, et c'est à Nicole et à son mari d'apporter la preuve.
Non,
voilà, tout à fait.
Et donc,
Voilà, Nicole, ce qu'on pouvait vous répondre pour aujourd'hui. Bon courage à vous.
Merci.
Et il vous reste encore du temps. Vous souhaitez intervenir. Donation, partage, voire transgénérationnel. Ne vous en privez pas. Attention, la pendule file très très vite. Maître Sidonie Bagilé à tapis notaire vous répond en direct.
France Bleu Creuse, le dossier du jour, 05 55 52 37 38. Pas, je ne t'oublierai jamais.
qui l'a voulu. C'est un jour de joie. Il y a de la poésie dans cette vie, je crois. Je vois la tour Montparnasse plantée devant moi. Au coin de la rue Madame, je reviens à toi. Je me rends à Saint-Sulpice. Je me rends, tu vois. Il y a de la poésie. Café serré au comptoir en bois. Je prends la rue des Canettes. Je reviens à toi. Le passé, les courants d'air, les mots d'autrefois, de Villon, d'Apollinaire, trottent dans le froid. Au sortir de mes pensées, je passe la Seine sur le pont des Argevins. Je reviens à toi. Sans ma peine, comme le vent dans la plaine, la nuit sur les toits. Que cette ville est jolie, en disant cela, ton visage m'apparaît, je reviens à toi. Voilà une journée qui traîne, un peu à mon bras, un nuage dans sa traîne, c'est la vie qui va. Café serré au comptoir en bois. Je prends la rue des Canettes. Je reviens à toi. Le passé, les courants d'air, les mots d'autrefois, de Villon, d'Apollinaire, trottent dans le froid. Au sortir de mes pensées, je repasse la Seine sur le pont des Argevins.
Je reviens à toi, Marc Lavoine.
France Bleu Creuse, le dossier du jour.
Suite de ce dossier consacré aux donations, donations partage, donations transgénérationnelles avec Maître Sidonie Bagilé-Latapie, notaire, qui répond en direct à toutes vos questions au 05 55 52 37 38. Et tout de suite, nous allons accueillir Suzanne. Bonjour.
Bonjour, excusez-moi de vous déranger.
Mais vous ne nous dérangez pas, Suzanne, on est quand même là pour ça.
C'est gentil, merci. Alors, une question, s'il vous plaît, je vais essayer de résumer. Mon fils ne voyait plus son père depuis l'âge de 18 ans, il en a 40. Son père est décédé au mois de novembre.
Oui.
Et personne ne l'a prévenu du décès de son père, déjà. Et je suppose, parce que c'était déjà fait comme ça au moment du divorce, j'ai rien pu avoir parce que sa femme avait mis tout la maison à son nom à elle. Donc là, est-ce que mon fils peut avoir quelque chose,
prétendre à une partie de l'héritage de son père? C'est ça, Suzanne, c'est ça. Votre question, d'accord.
C'est ça.
Maître.
Bonjour, Suzanne.
Bonjour, maître.
Ensuite, effectivement, votre fils a effectivement vocation à hériter de son papa. Après, il reste à savoir ce qu'il y a dans la succession de son père.
Oui.
Si effectivement, il n'y a rien, il n'y a pas d'héritage.
Voilà, parce que si c'est à son nom, elle n'est pas rien à faire.
Alors après, il faudrait voir effectivement comment votre ex-mari s'est lui-même remarié, s'il y avait un contrat, s'il n'y en avait
oui,
pas.
Il s'est remarié, c'est sûr. Voilà, il y a 2 ans et demi à peu près.
Voilà, il faudrait voir si vous voulez, s'il y avait un contrat et la nature de son contrat de mariage, et si après il a ou non fait une donation au dernier des vivants à sa deuxième épouse. Mais sur le principe, votre fils a bien vocation à hériter de son père, là-dessus il n'y a pas de problème. Mais encore faut-il déterminer les actifs appartenant à la succession de son papa et de votre ex-mari.
Alors que peut faire ce fils? Prendre attache auprès de l'étude notariale, manifester
c'est
quand
ça,
même
il faudrait effectivement prendre contact avec un confrère, avec au moins l'acte de décès, et puis de voir s'il y a une succession qui pourrait être en cours, sauf à ce que la deuxième épouse n'ait rien fait, mais en principe, on ouvre un dossier de succession chez un notaire, donc il faudrait que votre fils prenne attache avec un confrère et puis voir s'il y a quelqu'un qui est en charge de la succession de son papa.
Oui, d'accord. D'accord.
Mais il faut se renseigner, hein, ouais, Suzanne, il ne faut pas laisser passer
non,
le temps.
Non, moi je ne laisserai pas passer. Alors, effectivement, vous avez raison, moi je ne laisserai pas passer. Par contre, il ne faut pas non plus attendre trop longtemps parce que dans 5 ans ou dans 10 ans, ça n'aura plus de sens. Mais au moins que votre fils connaisse la consistance de la succession de son père. Si après, dans la succession, enfin, en termes d'actifs, eh bien, ma foi, il n'y en a pas, eh bien, il hérite de rien. Mais au moins, il en aura le cœur net, quoi.
Oui, et s'il a fait, comment on appelle ça quand on donne, j'arrive pas à trouver le mot.
Au dernier des vivants.
Au dernier du vivant, ou alors s'il a fait un testament.
Mais par exemple, il a très bien pu faire un testament ou une donation entre
époux. Son fils, il a le droit de déshériter son fils.
Non, ça c'est à Los Angeles seulement, Suzanne. Dans nos terres encore.
Alors, on
ici.
Va pas revenir sur l'affaire Hallyday.
Donc, combien d'enfants avait votre mari quand il est décédé? Un seul, le vôtre?
Le mien et puis un autre de l'autre côté.
Donc, il a pu, effectivement, donc il doit laisser un tiers à chacun de ses deux enfants, du coup.
D'accord.
Un tiers pour votre fils, un tiers pour l'enfant du deuxième mariage.
Oui.
Donc, pour répondre à votre question, il n'a pas pu déshériter votre seul enfant, si vous voulez.
D'accord.
Mais effectivement, il faut se rapprocher du confrère qui s'occupait des affaires de votre mari, par exemple, pour voir s'il a été saisi du règlement de la succession. S'il est saisi, effectivement, il devrait contacter votre gamin. Si après, il n'est pas saisi, je pense qu'il faut ouvrir une succession, quoi. Alors après, je ne vous promets rien, parce que si effectivement, il n'y avait pas d'actif dans la succession de votre mari, ou s'il y a une donation entre époux, en fait, il peut y avoir un tas de paramètres qui vont faire que la succession ne pourra peut-être pas...
S'il y a une donation entre époux, maître, dans ce cas précis, dans le cas de Suzanne, est-ce que ça veut dire qu'automatiquement, eh bien, le fils de Suzanne est écarté de toute succession,
non,
ou
non.
pas
non. non, mais simplement, ce qui peut hériter de son papa sera grevé de l'usufruit de sa deuxième épouse, donc... Il ne pourra disposer que quand la deuxième épouse sera décédée.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Voilà, Suzanne.
D'accord, et bien je vous remercie beaucoup, maître, et puis merci à France Bleu Creuse.
À votre service. Bonne journée à vous. Et il vous reste du temps, si vous aussi, vous souhaitez poser votre question autour de ces donations, donations partage, vous n'hésitez pas, c'est au 05 55 52 37 38.
Le dossier du jour, avec Granit et Marbre Mourier, plan de cuisine et salle de bain, fabricant depuis 1860, exposition à la Souterraine et Limoges, et sur granit-marbre-mourier.fr.
Pour bien entendre passer la soixantaine, il faut un appareil auditif pour chaque oreille. Chin Chin Audio, c'est le deuxième appareil auditif pour 1 euro de plus. Parce que tout le monde a le droit de bien entendre.
Chin Chin Audio, c'est la stéréo pour 1 euro de plus dans tous les magasins Alain Flelou acousticien jusqu'au 31 juillet. Dispositif médical, lire attentivement la notice, demandez conseil à votre audioprothésiste, voire conditions en magasin.
Charolaise,
Limousine,
Blonde d'Aquitaine,
Aubrac,
Salaire.
Les viandes racées vous invitent à découvrir des plaisirs racés.
Alors, Madame Beauchamp, vous êtes éleveuse de charolaises. Dites donc, elles sont impressionnantes.
Oui, c'est sûr qu'elles profitent bien. Elles se nourrissent à l'herbe des prés les 2/3 de l'année. Et puis, le reste du temps, c'est le fourrage de la ferme.
Les 2/3 de l'année à brouter. Elles entretiennent vos prairies, alors?
Ah bah, c'est sûr que sans nos bêtes, le paysage, il n'aurait pas du tout cette tête-là, hein, si j'ose dire.
Et alors, ça donne quel type de viande?
Mais déjà, une bête qu'on nourrit bien toute sa vie, à qui on a laissé le temps de grandir, naturellement, ça fait une bonne viande, très persillée, très goûteuse. C'est ça, les viandes racées.
Bazadaise.
Blanc bleu.
Rouge des prés.
Parthenaise.
Gasconne.
Les viandes racées, initiez-vous au plaisir racé.
Le bois est extraordinaire. Géré durablement, il agit pour l'environnement. Il permet de se chauffer, de transporter les produits du marché. Il s'élance vers le ciel pour une ville plus belle. Isolant thermique, instrument de musique, il ne cesse d'innover pour à la fin se recycler. Le bois offre des possibilités infinies, il suffit d'en avoir envie.
Pour moi, c'est le bois. Retrouvez tout ce que le bois peut vous apporter sur franceboisforêt.fr.
France Bleu Creuse. France Bleu Creuse, le dossier du jour.
Consacré ce matin aux donations, donations, partage, donations transgénérationnelles avec maître Sidonie Bagilé-Latapi, notaire. Il vous reste encore quelques minutes. Vous avez une question, vous voulez un éclaircissement rapide. 05 55 52 37 38. Bonjour Joël.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
J'aurais voulu un petit renseignement. Ma maman, on a une maison qui est en indivision. Mon père est décédé. C'est ma mère qui en a eu la jouissance jusqu'à sa mort. Et on voudrait vendre la maison, et on avait entendu dire qu'il y avait une loi, si on était majoritaire, si on pouvait vendre.
Bonjour Joël.
Oui, bonjour.
Oui, effectivement, il y a bien une loi. Par contre, il vous faut demander l'autorisation judiciaire de passer la vente.
Au juge, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est pas... Alors, je vais simplifier, mais je vais dire par voie de requête. Il y en a qui veulent pas, c'est ça?
Oui, j'ai mes deux neveux, les deux neveux de mon frère qui est décédé, puis son ex-femme, du moins son ex-femme, ils étaient, à l'instant, ils n'étaient pas divorcés. Ils veulent pas signer chez le notaire, quoi.
Et qu'est-ce qu'il dit, le confrère?
Ben, il sait pas trop. Il sait pas.
Ouais. Ben, il faudrait effectivement consulter un avocat.
Oui.
Et si vous réunissez le quorum, et si vous êtes sûr que le bien... Moi, je suis acheteur de votre maison. À partir du moment où, effectivement, elle est bien vendue au prix, c'est-à-dire que je dois pas profiter de la situation pour acheter à un prix trop bas. À partir du moment où l'acquéreur est un acquéreur au prix et que, bien sûr, l'acquéreur est pas trop pressé puisque ça nécessite un petit peu de délai,
oui,
moi, j'irai voir un avocat et je demanderai l'autorisation judiciaire de passer la vente.
D'accord. Bon, ben, je vais le dire à ma maman.
Ben, vous n'avez pas beaucoup de choix, sinon c'est ça, ou alors après, si vous voulez, le principe de l'indivision, effectivement, tout à l'heure on parlait de donation, le principe de l'indivision, c'est qu'on est tous tenus les uns avec les autres, un veut pas, ça capote, quoi.
Oui, mais c'est exactement ça,
voilà.
C'est bloqué. Mais
c'est
bon,
ça, c'est bloqué.
Ma mère a 80 ans, elle peut plus se venir avec la petite retraite, la voiture, tout ça. Elle a mis un locataire dedans, même le locataire serait intéressé pour acheter, mais bon, ça bloque.
Et moi, je vous dis, j'irai consulter un avocat avec les papiers dont vous êtes en possession, et en démontrant que c'est de l'intérêt de votre maman pour pourvoir à son entretien, et puis demander l'autorisation judiciaire de passer la vente.
D'accord.
C'est pas beau, mais vous n'avez pas beaucoup d'issues.
Ah, bah, là, il n'y a pas le choix.
Non, vous n'avez pas vraiment le choix.
Non.
Ou alors, après, la deuxième solution, c'est que les héritiers qui ne veulent pas reviennent à de meilleures dispositions. Mais ça me semble compromis.
Non, il n'y a plus de... Depuis 88 ans, ils n'ont jamais revu.
Et pourquoi ils s'opposent? Pour embêter ou...
Oui, pour embêter ma maman, de s'y parle pas ma mère.
D'accord. Oui, c'est un peu dommage, effectivement, pour votre maman.
Voilà. Elle a 81 ans, donc elle n'en veut plus.
Ah ben, je comprends. Eh bien, je vous dis, il faut consulter un avocat et allez-y avec les documents, les justificatifs de ce que vous me dites. Et puis, je vous dis, vous demandez l'autorisation judiciaire de passer la vente en raison d'un blocage injustifié et surtout de la situation de nécessité de votre mère.
D'accord. Entendu, maître.
Allez, courage,
voilà,
Joël.
Bon courage.
Merci. Au revoir.
Et il vous reste quelques minutes maintenant. 05 55 52 37 38. C'est l'indivision, il faudra qu'on y revienne, maître, sur une prochaine émission. Donation transgénérationnelle, expliquez-nous le principe. Est-ce que ça veut vraiment dire qu'on peut aller donner directement aux petits-enfants?
C'est ça.
En trappant les enfants avant?
C'est ça, exactement. Alors, on ne les trappe pas exactement, mais on demande la permission aux enfants, effectivement, de s'effacer en totalité ou en partie, après ça dépend des enfants, au profit de leurs propres enfants. C'est ce qu'on appelle dans le jargon un saut de génération. Je dis que par exemple papa et maman ont 80 ans, leurs enfants en ont 60 et les petits-enfants 35 ou 30. Aujourd'hui effectivement peut-être que les enfants quand ils ont une soixantaine d'années, ayant eux-mêmes accompli une grande partie de leur parcours et ayant par ailleurs leurs propres biens à transmettre, il peut être intéressant fiscalement que les grands-parents transmettent directement aux petits-enfants.
Mais il faut que la génération intermédiaire, nous en dire, soit d'accord.
C'est ça. Et si, par exemple, vous avez deux enfants, les deux enfants ne sont pas tenus de consentir de manière symétrique. C'est-à-dire, un peut s'effacer devant ses propres enfants et l'autre non, pour d'autres raisons.
Ça ne complique pas un peu les choses?
Si, mais on peut faire des trucs vachement sympas.
Ouais. Ça sera là aussi à développer. Il nous reste juste un petit peu de temps. Là, je m'adresse à Marie-France, à France Bleu Creuse. 05 55 52 37 38. Par rapport aux donations, par exemple, une donation entre époux, qu'est-ce qui se passe si celui qui reçoit décède finalement avant le donateur?
Sur une donation entre époux ou sur une donation simple?
On va faire les deux, mon colonel.
Mais sur une donation entre époux, il n'y a pas d'impact, puisque la donation entre époux, c'est ce qu'il y a au jour du décès. Donc si on est mort, il n'y a rien.
D'accord.
Une donation entre époux, elle ne peut s'ouvrir qu'à partir du moment où celui qui en est bénéficiaire est en vie.
Et il n'y a aucun autre cas de figure par rapport à ça.
Non.
Donc c'est quasiment sans risque, ces donations.
Ah, mais une donation au dernier des vivants, c'est effectivement quand on est marié, l'acte pour protéger son conjoint qui est à faire, quoi.
Uniquement quand il y a un lien du mariage?
Ah oui, donation entre époux, faut donc être marié. Hein.
C'est aussi important.
C'est ça. Ah oui, on fait pas de donation entre époux, entre concubins ou entre partenaires de Pax, ça marche pas. Donation entre époux, c'est entre époux.
Bon, ben on va tâcher.
Que pour les gens mariés.
On va retenir. Ça m'aurait étonné que vous me disiez le contraire, hein, parce que c'est quand même très régulièrement ce que l'on entend. Donation, donation partage, donation transgénérationnelle. En tant que notaire et avec le recul des années, c'est quelque chose dont on a bien le réflexe aujourd'hui ou finalement pas tant que ça. Hein.
Je dirais que c'est partagé. Aujourd'hui, la donation partage, la donation ou la donation partage transgénérationnelle, peu importe ta version, effectivement, a le mérite de procéder donc de son vivant au règlement d'une partie, en tout cas, ou de la majorité des fois, de sa propre succession. Par contre, l'espérance de vie s'allongeant, les gens retardent. Oui. À mon sens, je dirais trop longtemps le jour où ils donnent. Et après, la difficulté, c'est que souvent, c'est pas perçu ou c'est mal compris, mais fiscalement, donc, les abattements sont reconductibles tous les 15 ans. Donc, je vais vous donner un exemple. À patrimoine équivalent, je dis que, par exemple, le papa ou la maman, peu importe, les deux, papa et maman ont un enfant et un patrimoine de 400 000. Mmh. Papa et maman ont deux enfants et un patrimoine de 400 000. Papa et maman ont trois enfants et un patrimoine de 400 000. Donc vous voyez que dans tous les cas, mon patrimoine, il fait 400 000. Donc papa et maman ont trois enfants, il y a zéro droit. Papa et maman ont deux enfants, il n'y en a presque plus. Il y a un peu de droit. Papa et maman et un enfant, les droits de donation sont plein pot. Donc en fait, si vous voulez, ça va dépendre du volume du patrimoine à transmettre et du nombre d'enfants que les époux peuvent avoir. Donc plus le patrimoine est important ou moins s'il y a d'enfants, plus il faut commencer tôt.
Dernière question pour aujourd'hui, maître. Est-ce qu'on peut changer d'avis, revenir
sur une donation? Alors, une donation, il y a des cas légaux, donc effectivement, où on peut revenir sur la donation. Donc globalement, quand ce sont le donateur et le donataire qui sont d'accord, donc effectivement, on peut... Alors, on ne révoque pas une donation par voie amiable. Un donateur et un donataire se mettent d'accord pour dire « Bon, mais finalement, la donation, je la veux plus. » Et donc, on refait du donataire au donateur une nouvelle donation, ce qui pose des problèmes techniques le jour des ventes. Mais enfin, ça, c'est faisable. Après, les autres cas vont être des cas de révocation judiciaire pour cause donc d'ingratitude, pour délits, sévices, injures graves ou refus d'animent.
Oui, donc on réfléchit bien quand même.
Une fois qu'on a donné, après on marche avec les donateurs, avec les donataires. Hein.
Donner ses données, reprendre ses volets.
C'est ça, exactement, c'est ça tout à fait. Règle numéro 1.
Ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui.
Le dossier du jour, avec Granit et Marbre Mourier. Tout pour le cimetière. Fabricant depuis 1860. Exposition à la Souterraine et Limoges et sur granit-marbre-mourier.fr.
Tous les conseils de maître Sidonie Bagilet-Latapie, notaire, que vous pouvez effectivement retrouver sur francebleu.fr. Demain à 9h, nous avons notre rendez-vous mensuel avec les pompiers de la Creuse, les sapeurs-pompiers volontaires conventionnés dans le secteur public et secteur privé. Comment ça fonctionne? Vous aurez tous les détails demain dès 9h.
France Bleu Creuse, le dossier du jour, à retrouver sur francebleu.fr.